Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Emmanuel Bove. Il est né en 1898 à Paris. Il est mort en 1945, encore à Paris. Il est aujourd'hui tenu pour un des écrivains majeurs du XXe siècle. Le temps de vivre et le temps d'écrire lui furent comptés. En 1924, il fait paraître « Les Amis », suivi d'autres livres et romans comme « Journal en hiver ». Il raconte les milieux populaires. Il fait l'expérience de la pauvreté pour exorciser son sentiment d'insécurité. Il meurt en 1945, on l'oublie. Son œuvre est redécouverte. En 1987, paraissent « Mémoires d'un homme singulier » qui regroupe des œuvres d'Emmanuel Bove chez Flammarion. Retrouvez Emmanuel Bove dans cette nuit magnétique proposée par Claude Royer-Journoux en 1983.
Bonsoir. Emmanuel Bove, 1898-1945. Plus de 30 livres de son vivant. 1945, l'oubli. Commence une vie souterraine, une poignée de lecteurs cherchent chez les bouquinistes et y trouvent souvent, pour des prix dérisoires, ce qu'il a laissé derrière lui. 1977, première résurrection, deux livres réapparaissent chez Flammarion, Armand, Mes Amis. Quelques poignées de lecteurs de plus. Curieusement, une édition de Mes Amis au livre de poche. De nouveau plus rien. Fin 1982, la revue Grande Largeur publie Une offense d'Emmanuel Bove. Peut-être quelques lecteurs de plus. Mars 1983, tout change. Les photos de Bove apparaissent aux vitrines des libraires. Flammarion recommence. À Armand et Mes Amis, Flammarion ajoute Journal écrit en hiver et Henri Duchemin et ses ombres. Cette fois-ci, ce n'est plus du tout la même chose. Les deux livres sont accompagnés d'une plaquette très intelligente, très complète, qui donne tout ce que l'on peut savoir sur l'écrivain. C'est un travail d'éditeur exemplaire. Et la presse suit. Tout le monde se met à parler de Bove. Trop, probablement. Certains critiques s'énervent, parlent de mode, disent qu'il ne faut pas confondre résurrection d'écrivains qui pourraient encore vivre et exhumation de cadavres déjà décomposés. Nous avons voulu en savoir plus. Nous avons rencontré deux lecteurs de Bove et de bien d'autres écrivains d'ailleurs, deux lecteurs qui n'ont pas pu le connaître, qui étaient en culotte courte quand Bove est mort, mais qui pourtant... Yves Martin, vous êtes un grand lecteur, vous passez des heures et des heures chez les libraires à fouiller et vous avez rencontré les livres d'Emmanuel Bove à une époque où personne n'en parlait.
Oui, c'est-à-dire j'ai un libraire qui se trouve dans le 17e arrondissement et qui, disons, c'est à peu près chez lui que j'ai acheté tous mes livres. Souvent, je voyais chez lui des exemplaires d'Emmanuel Bove. Alors, je lui ai demandé... il m'a dit c'est un écrivain tout à fait intéressant, que personne ne lit plus. Et alors, j'ai commencé à en acheter comme ça. Et voilà.
Et les livres d'Emmanuel Boeuf que vous avez achetés à cette époque-là sont de beaux livres. Ce sont des éditions originales, sur beau papier, numérotées. Vous étiez très riche à l'époque ?
Non. Mais enfin, disons, pour 100 francs par mois, je partais avec un gros paquet de chez ce libraire où j'avais du Boeuf, des éditions originales de Rebelle, de Jean Tinan, sans aucune difficulté. Je me souviens avoir acheté des... D'ailleurs, comme il marquait toujours les prix, je les retrouve d'ailleurs rarement. Vous voyez, j'ai acheté un des 31 exemplaires sur Hollande. Il y en avait 75. Je l'avais donc acheté à l'époque 10 francs. 10 francs. Alors, j'en ai ramené là, un autre là, Monsieur Torp, édition originale, 4,50 francs, avec une dédicace de Boeuf. Une fugue avec une ito d'Alexandre Alexiev, qui est quand même très très bon. Bon, et je vois, édition originale, 7,50 francs. Et c'était tiré à 340 exemplaires. Mais enfin, j'ai par exemple les Raskolnikov en grand papier. Faudrait que je retrouve les exemplaires, mais ça doit être dans l'ordre 10 francs, 8 francs. C'était vraiment complètement abandonné.
Et je suppose que vous n'achetiez pas ces livres uniquement pour le plaisir d'avoir des exemplaires sur Hollande. Vous les lisez aussi.
Oui, bien sûr. Dire que je n'ai pas tout lu, Boeuf, ceci dit. Quand vous voyez une fugue, je ne l'ai pas lu. Mais enfin, l'essentiel, c'est que d'avoir une bibliothèque, c'est par exemple 10-15 ans après, de pouvoir, si j'ai envie de lire Boeuf, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut à ma disposition. Voilà. Je veux dire que... C'est comme pour tous les autres auteurs, je les ai entassés pour pouvoir les lire 10, 15 ans après. On en lit un ou deux, puis on passe à un autre auteur. Moi, j'aime bien la variété. Je n'ai pas de côté encyclopédique, je ne suis pas le lecteur encyclopédique. J'aime bien, je lis un jour un Boeuf, après je lirai, beaucoup d'autres écrivains. D'ailleurs, pour moi, trois quarts des écrivains ne sont pas lus, ne sont pas connus. On s'en tient toujours au même, ad vitam aeternam, ça, il n'y a pas... Alors, maintenant, on reparle de Boeuf, c'est très bien, mais enfin, combien d'autres sont absolument inconnus des gens, ça. Absolument inconnus, ça.
Raymond Cousse, tu as des responsabilités importantes dans la réédition des œuvres d'Emmanuel Boeuf chez Flammarion. Tu étais tout à fait indiqué pour essayer de nous expliquer un peu qui était Emmanuel Boeuf. La première chose qui saute aux yeux, c'est que Emmanuel Boeuf ne s'appelait pas Boeuf.
Oui, responsabilité importante, je sais pas, c'est des mots que je n'adore pas. Mais enfin, Boeuf s'appelait de son vrai nom, donc Bobovnikov. Emmanuel Bobovnikov, et son père était d'origine russe et sa mère était luxembourgeoise.
Et cet homme d'origine russe échoue à Paris, puisqu'il naît à Paris, à la suite de quelles circonstances ?
Oui, c'est-à-dire que partout où on naît, on échoue de toute façon. Enfin, il a échoué, son père a échoué, si on peut dire, en Suisse d'abord, puis après à Paris. Tu vois, il était... Et Boeuf est donc né... La mère de Boeuf était domestique. Et le père de Boeuf était un petit peu... Enfin, il faisait un petit peu tout, un petit peu rien, un petit peu étudiant, un petit peu les milieux interlopes, un petit peu tout ça, quoi. Le milieu des émigrés, en quelque sorte. Et c'est comme ça que Boeuf est né à Paris.
Cette naissance à Paris n'a pas l'air pour autant d'avoir fixé ni la famille de Boeuf, ni le personnage lui-même. On a l'impression, quand on lit la biographie de Boeuf, qu'il est très vite destiné à une espèce d'errance à travers l'Europe.
Oui, je crois que c'est le propre des milieux émigrés, dans le cas de son père déjà. Donc son père a vécu beaucoup en Suisse, lui-même avait vécu en Suisse, et ensuite le père est venu en France, et puis il est retourné en Suisse, et puis le père de Boeuf a vécu avec une autre femme qui était anglaise, pas. Ce qui fait que Emmanuel Bov a été partagé entre ces deux milieux. Un milieu qui était un milieu, disons, très, très pauvre, celui de sa mère et de son père, lorsque son père vivait avec sa mère, et un milieu qui était nettement plus opulent, avec sa mère, avec sa belle-mère, donc, en Suisse. Voilà. Ça jusqu'en 1915, à peu près. C'est-à-dire il y a 17 ans.
C'est ça. Ensuite, Bov semble se fixer à Paris un petit peu plus et se met à travailler. On signale dans sa biographie qu'il occupe divers emplois temporaires.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je sais à ce propos, c'est qu'il a très tôt voulu être romancier. Et s'il a occupé ses emplois, c'est précisément pour avoir des expériences, pour faire des expériences qui lui serviraient, pensait-il, dans ses romans, pour écrire ses romans.
Toutes ces expériences se passent dans des milieux de gens qui travaillent, de gens qui ont besoin de travailler pour vivre. L'expérience parisienne de Bov semble assez loin de l'expérience du grand monde que connaissait la famille de sa belle-mère.
Oui, je crois que Bov donc a vécu son enfance dans ces deux milieux, et c'est un petit peu ce que j'explique dans le texte de la plaquette. Et je crois que pour un jeune enfant, le transbahutage entre les deux milieux est assez difficilement compréhensible, et que il a tiré de ça, il lui en est resté un sentiment d'insécurité, je pense. Et c'est tout ce sentiment d'insécurité, cette insécurité qu'il cherchera d'une certaine façon à exorciser dans toute son œuvre.
La famille Lecoin habite aussi sur le palier. Au petit jour, une sonnerie fonctionne sur son réveil. Le mari ne m'aime pas. Pourtant, je suis poli avec lui. Il m'en veut de ce que je me lève tard. Ses habits de travail roulés sous le bras, il rentre chaque soir vers 7 heures en fumant une cigarette de tabac anglais. Ce qui fait dire aux gens que les ouvriers gagnent bien leur vie. Il est grand et musclé. Avec un compliment, on peut se servir de sa force. L'année dernière, il a descendu la malle d'une dame du troisième assez difficilement, il est vrai, car le couvercle ne fermait pas. Lorsqu'une personne lui parle, il la dévisage, parce qu'il s'imagine qu'elle veut se moquer de lui. Au moindre sourire, il dit « Vous savez, 4 ans de guerre, moi, les Allemands ne m'ont pas eu, ce n'est pas aujourd'hui que vous m'aurez. » Un jour, en passant près de moi, il a murmuré « Fainéant !» J'ai pâli et n'ai su que répondre. La peur d'avoir un ennemi m'empêcha de dormir pendant une semaine. Je me figurais qu'il cherchait à me frapper, qu'il m'en voulait à mort. Pourtant, si Monsieur Lecoin savait comme j'aime les travailleurs, comme leur vie me fait pitié, s'il savait ce que ma petite indépendance me coûte de privation.
D'ailleurs, certains de ses romans ne se passent pas du tout dans des milieux, pauvres. Enfin, ça se passe presque dans la haute société, enfin, ou supposait-elle, oui.
Le journal écrit en hiver, par exemple.
Le journal écrit en hiver et d'autres romans, beaucoup d'autres romans. Simplement, je crois que c'est un moyen pour lui, le choix d'un milieu pauvre, c'est un moyen pour lui d'exorciser encore une fois ce sentiment d'insécurité. Alors il prend des situations romanesques et des personnages qui lui serviront pour sa thèse.
Passage obligé à cette époque, on est en 1917-1918, c'est évidemment la guerre. Et quand on lit Mes amis, on est frappé de voir que le héros, ou du moins le centre du livre, Victor Bâton, revient de la guerre de 14 et il y a laissé un morceau de main, on a ramené une pension. Ça correspond à une expérience réelle chez Bov ?
Bah oui, justement non. Justement non. L'œuvre de Bov, est, quand on la connaît bien, est une biographie. Bon, une autobiographie. Mais elle est entièrement transposée. Par exemple, au contraire de Calais. C'est un point très très différent. J'aime presque autant Calais que Bov, et même autant dans certains de ses livres, ils sont tout à fait complémentaires. Dans le cas de la guerre de 14, donc, Bov ne l'a pas faite. Bov a fait ses classes en 1918 à Guingamp, dans les Côtes du Nord, et lorsqu'il était bon pour le service, c'était en novembre 18, donc au moment de l'armistice. Alors là encore, on voit bien sûr qu'il utilise des choses ayant trait à la guerre de 14 dans ses romans, mais parce que bien sûr ça illustre assez bien son univers et ce que j'ai dit au début, c'est à propos de l'insécurité, je pense, et de sa sensibilité particulière et de son masochisme aussi, etc., etc. Donc il n'y a pas d'autobiographie. Bov s'écarte radicalement de l'autobiographie. D'ailleurs, vous connaissez ce texte dans lequel on lui demande, n'est-ce pas, de faire sa biographie en quelques pages, et il y renonce.
J'avoue qu'ici mon trouble est un peu celui de l'acteur qui, oubliant tout à coup son rôle, est obligé d'inventer des répliques ou de s'excuser tant bien que mal auprès des spectateurs. Ce que me demande Lucien Cras est au-dessus de mes forces, pour mille raisons dont la première est une pudeur qui m'empêche de parler de moi. Tout ce que je dirais serait d'ailleurs faux. Il y aurait bien ma date de naissance qui serait exacte. Encore faudrait-il que l'humeur du moment ne me poussât pas à me rajeunir ou à me vieillir. Qui saurait d'ailleurs résister au plaisir d'emplir sa biographie d'événements, de pensées basses, d'envie d'écrire à l'âge de 8 ans, de jeunesse incomprise, d'études très brillantes ou très médiocres, de tentatives de suicide, d'actions d'éclat à la guerre, d'une blessure mortelle dont on a échappé, d'une condamnation à mort dans un camp de prisonniers et de la grâce arrivant la veille de l'exécution. Le plus sage, je crois, est de ne pas commencer.
La guerre de 14 occupe une fonction importante parce qu'elle permet justement le brassage. Dans plusieurs livres, ce sont des gens qui se sont connus probablement dans les tranchées ou qui se sont liés pendant la guerre, qui se retrouvent ensuite. Et le décalage devient quelque chose d'insupportable. Le retour de celui qui est pauvre et qui n'était pas vécu comme pauvre, parce qu'il était dans les tranchées avec le riche, et qui d'un seul coup, dans l'appartement du riche, devient une espèce de verrue qui est mal à son aise.
Bien sûr, mais c'est entièrement fictionnel et disons, c'est dans l'air du temps. Voilà. On retrouvera la même chose d'ailleurs dans ces trois derniers romans à propos de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, on reviendra là-dessus, puisque les deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale, Bov les vit à Alger, dans les milieux de la France libre qui attendent à Alger et qui essayent d'activer la libération de la France.
Oui, tout à fait, tout à fait. On retrouve la même chose. Mais disons que bon, la guerre de 14 lui sert de cadre. Bon, et puis je pense qu'il en était évidemment, ça imprégnait toute la vie de l'après-guerre, n'est-ce pas, la guerre de 14. Je lui mets un cigare. Et on retrouve la même chose encore en 1944. Et, les années de guerre et ces derniers romans ont pour décor la France occupée, l'Allemagne des prisonniers aussi, puisque dans l'un, le héros est prisonnier en Allemagne.
Après-guerre, il y a un épisode assez curieux qui est bien dans la ligne de cette vie de personnage errant. Bov va s'installer en Autriche.
Il s'est marié en 1921, il va vivre avec sa femme en Autriche. Pour une simple raison, parce que le change était plus favorable. C'est la raison pour laquelle il est allé en Autriche. Alors, il vivra là-bas à Tulln. C'est une ville qui est à peu près distante de 35 km de Vienne, à l'ouest de Vienne. Et c'est la ville natale d'Egon Schiele, dont on ne peut pas ne pas mentionner les rapports éventuels qu'il peut y avoir avec l'œuvre de Bove. Je suis allé récemment en Autriche, je suis allé donc à Tulln. Et j'avais l'acte de baptême de sa fille, n'est-ce pas ? Et sa fille, qui s'appelle maintenant Nora, son prénom est Nora, et sur l'acte de baptême, son prénom est Emma, son premier prénom est Emma. Et alors, évidemment, j'ai pensé Emma Bove, Bovary, etc. Je pense que Bove, qui à ce moment n'avait pas son pseudonyme, n'a pas pu ne pas faire le rapprochement. Jusqu'à quel point, et est-ce qu'il a décidé à partir de ça de prendre ce pseudonyme par une réduction de Bovary, je n'en sais rien, mais enfin ça me semble probable, c'est impensable qu'il n'y ait pas pensé. Ça serait une très grande faute pour un romancier.
L'Autriche, c'est une parenthèse, ou plutôt le domaine germanique, c'est une parenthèse qui s'ouvre peut-être et qui se referme ou se continue en ce moment avec le fait que Bove soit en ce moment traduit en allemand, et que les lecteurs allemands semblent prendre beaucoup de plaisir à lire Mes Amis et Armand, et que le traducteur de Bove en Allemagne ne soit pas n'importe qui, mais soit Peter Handke.
Oui, je veux dire tout de même que c'est en Autriche que Bove a écrit ses premiers textes. J'ai ici le manuscrit original du Crime d'une nuit, qui est une nouvelle par laquelle d'ailleurs il s'est fait connaître. Et c'est la signature et la dernière page. Sur la dernière page, il est précisé que il est marqué. Enfin, c'est marqué quoi. Que c'est à Vienne, voilà. Que Vienne 1922. Donc, et ça, je sais que c'est son premier texte. Mais Mes Amis a également été composé à Vienne. Et certainement Armand, et certainement encore quelques petites autres choses. Bien, pour la question de Handke, oui, en effet, c'est Handke qui a traduit les deux premiers livres de Bove, c'est-à-dire Mes Amis et Armand. Ces deux livres connaissent un très grand succès en Allemagne, puisque Mes Amis en est à sa troisième réédition, et Armand à la seconde. Il y avait en outre 6 pages dans le Spiegel, et Handke lui-même me disait que c'est la première fois qu'il voit ça.
Chère madame, je suis le traducteur de Mes Amis, le premier livre de votre père. Traduire n'est pas ma profession principale, je le fais par plaisir. Je suis un écrivain autrichien de langue allemande. Il y a 3 ans, j'ai commencé à lire l'œuvre de votre père et ai décidé de le traduire. L'éditeur étant d'accord, Mes Amis vient de paraître dans la collection Bibliothèque sur Kamp. Le livre a connu un succès surprenant dans les pays de langue allemande. Il y avait dans les grands journaux de longs articles sur Emmanuel Bove, que l'on a comparé à Tchekhov et qualifié de grand écrivain. De plus, Mes Amis a été désigné comme livre du mois en février, et l'exemplaire que je vous envoie est déjà en réimpression. En ce qui concerne Armand, je viens d'en terminer la traduction, et le livre paraîtra dans la même collection en novembre 1982. Je voudrais ajouter une petite postface contenant quelques renseignements sur la biographie et la bibliographie. Dans ce but, je vous demande quelques renseignements sur la vie, et peut-être la mort, de votre père. J'espère que vous pourrez m'aider. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avance. Travailler sur les livres de votre père était pour moi plus qu'un plaisir, c'était une joie profonde et aussi le sentiment d'un devoir. Au fil du temps, je voudrais doucement continuer à éterniser l'écrivain Emmanuel Bove. Bien à vous, Peter Handke. Après la parenthèse autrichienne, le retour à Paris et la décision, ou du moins la réalisation d'un rêve, de devenir réellement écrivain, de publier.
Oui, c'est-à-dire que je crois qu'il a toujours voulu être écrivain. C'est-à-dire, j'ai lu des lettres de sa femme, de Louise Bove, à ce sujet, dans lesquelles il dit, dans lesquelles elle dit plutôt à propos de son mari, qu'il voulait dès 14 ans être romancier, quelquefois 12 ans même. Elle a toujours tendance un petit peu à embellir, c'est peut-être compréhensible, mais enfin, elle a tendance un peu à embellir. C'est tout juste si ce n'est pas un peu un héros de la guerre de 14. Alors, il a fallu démêler cette chose. Mais j'ai perdu la question.
Non, la question c'était Bove de retour à Paris dans les années 20, disons 22-23. Quand est-ce qu'il commence à publier et comment ?
Donc il revient de Vienne en 1923 et à ce moment il a déjà écrit Mes amis et Le crime d'une nuit et probablement quelques autres textes encore. Il fait paraître dans un journal dont je ne connais pas le titre, Le crime d'une nuit. Ce titre, le titre de cette nouvelle, et la nouvelle elle-même plutôt, est remarqué par Colette, qui lui demande alors de lui apporter un manuscrit, il lui donne Mes amis. Et Mes amis sort, et c'est un succès, il y a plusieurs voix, il obtient plusieurs voix au Féminin, et aussi Sacha Guitry fait un article dithyrambique dans Candide, alors qu'il n'avait pas l'habitude, paraît-il, de faire des articles.
Philippe Soupeau.
Colette, qui avait publié dans sa collection un roman de moi, eut l'idée de réunir ce qu'elle appelait ses poulains. Elle aimait aveuglément les animaux. Elle nous invita donc à déjeuner dans sa maison du boulevard Suchet. Bove ne dit pas un mot, sauf pour dire merci quand on lui offrait du vin. Colette, par contre, parlait beaucoup. Et en prenant congé, elle dit « Ah, notre ami Bove n'est pas bavard. » Dès que nous eûmes quitté la maison Colette et que nous marchâmes boulevard Suchet, Bove se mit à parler abondamment, à me questionner, et plus exactement. Il voulait surtout savoir le nom des éditeurs qui les plus accueillants et les plus solides. Il parlait aussi de ses projets qui étaient très nombreux. Nous nous quittâmes en nous promettant de nous revoir, ce qui arriva quelquefois, assez rarement du reste. Bove, en effet, était un solitaire, un peu timide et assez secret.
On peut dire à ce moment-là que Bove est lancé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il peut envisager de publier d'autres livres? Comment est-ce que ça fonctionne dans le Paris des 1924 pour quelqu'un comme Bove?
Oui, c'est-à-dire que ça, bien sûr, vous pensez bien que je dois reconstituer et qu'il y a toujours, c'est toujours assez difficile. Bon, son premier éditeur, c'est Ferenczi, dans la collection Colette, Colette ayant cette collection chez Ferenczi, donc il publie Mes amis. Et puis, ensuite, son second roman, qui donc est Armand, sera publié chez Émile Paul. Et jusque dans les années 30, il publiera de nombreux volumes chez Émile Paul. Au total, il a édité environ une trentaine de volumes. Je précise quand même que souvent ce sont de longues nouvelles ou de courts romans.
Une trentaine de titres sur 20 ans de publication, c'est considérable. Est-ce que Bove était quelqu'un qui écrivait vraiment beaucoup et facilement ?
Oui, je crois qu'il écrivait beaucoup. Il y a une bonne trentaine de titres, en effet. Oui. Notamment, par exemple, pendant l'année 1928, il a publié une dizaine de titres. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il a écrit 10 livres durant cette année, mais enfin, il en a publié 10. Et alors, il faut dire qu'il était un peu rodé avant, car il a commencé sa carrière, pour des raisons purement alimentaires, en écrivant des romans populaires sous le nom de Jean Valois, c'est-à-dire Valois étant le nom de jeune fille de sa femme.
Ferenczi, avec L'ombre de la grande Colette. Émile Paul, qui est un éditeur qui a disparu depuis, mais qui a publié des grands noms. On voit aussi apparaître dans la bibliographie de Bove un livre chez Grasset, deux livres chez Gallimard. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Est-ce que cela veut dire que Bove avançait vers une espèce de consécration en passant chez des éditeurs plus importants, ou bien est-ce que ce sont les hasards de l'édition qui sont responsables de cette dispersion de l'édition?
Bon, la consécration, je ne sais pas, et puis en plus je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la grande Colette non plus. Je ne crois pas que parce qu'on édite trois livres chez Gallimard, on soit consacré, je veux dire, et même un. Quant à moi, j'espère bien ne jamais y mettre, car y mettre les pieds, n'est-ce pas, tout simplement, j'espère bien, il faudra payer très cher. Mais simplement, bon, Émile Paul était tout de même un petit éditeur, c'était, disons, l'éditeur un peu d'avant-garde de l'époque, si on veut, mais c'était un petit éditeur par les moyens financiers, et Bove, ayant une très grande production, était obligé d'éditer ailleurs. Bon, d'autre part, ça n'est qu'à partir des années 30 que Bove édite chez Gallimard, et pendant les années 20, Gallimard n'est pas encore établi, ça n'est seulement qu'après, à partir des années 30, et certainement même dans la deuxième moitié des années 30, que Gallimard compte réellement. Donc Bove n'avait pas à cet égard de préférence. Enfin, il écrivait un livre, il allait le porter, et il avait toujours eu des rapports assez tendus avec les éditeurs. C'est-à-dire que bon, ce qui comptait pour lui, c'était de gagner sa vie, ce qui est assez légitime dans un sens, et puis ma foi, d'écrire, voilà, et d'essayer de lier les deux, enfin d'essayer de harmonieusement, mais malheureusement, ça n'a jamais été très harmonieux, car on ne peut pas dire qu'il ait jamais gagné d'argent. Une fois, en 1928, il a remporté le prix Figuière, qui était doté de 50 000 francs. À l'époque. Et 50 000 francs, d'après mes renseignements, était quand même une somme. Le prix Figuière, à l'époque, était plus important que le prix Goncourt. Mais le prix Goncourt n'était pas très important.
Raymond Coignat.
La chambre du crime dans un hôtel banal de quartier excentrique et lugubrement pauvre. Des policiers et des journalistes constatent le désordre du logis, seul vestige du drame. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Emmanuel Bove, envoyé par un journal d'information dont il était le rédacteur spécialement chargé des crimes. Et plus tard, il m'avoua que le journalisme n'était pas une vocation, mais un moyen de gagner sa vie. On l'imagine cependant assez bien, retrouvant dans le tragique quotidien quelques-uns de ces personnages dont il sait dire la banalité même avec relief.
On voit apparaître en 1935 la première trace d'une grave maladie, on parle de pneumonie, puis en 1937 sa mère meurt, 39-40 la guerre, et Bove meurt en 45. Les 10 dernières années, c'est une lente dégradation, c'est quoi?
C'est encore difficile à dire, ça, parce que je n'ai pas de témoignage de première main pour ça. C'est-à-dire que je n'ai pas pu rencontrer Louise Bove, elle est morte avant que les livres sortent et que je puisse vraiment m'occuper des livres de son mari. Et donc, je n'ai que des témoignages de seconde main. Et alors, à part les témoignages de première main, tout ce qu'on dit sur Bov, c'est qu'il ne disait rien, qu'il était silencieux, etc., etc. Donc, c'est toujours très difficile de savoir. Je sais, évidemment, par recoupement, par sa fille, par des gens de sa famille, par des écrivains, etc. Mais ce sont toujours des choses qui nécessitent un peu de recoupement. Donc, oui, les dix dernières années de sa vie ont été certainement difficiles au point de vue de la santé. C'est-à-dire que donc il y a cette pneumonie en 1935, je crois, et son état de santé ne fera que se dégrader durant les 10 dernières années.
Ce qu'on semble savoir quand même de manière sûre, là tes qualités d'enquêteur ont fonctionné, c'est qu'il refuse manifestement autant que possible l'occupation, et il quitte Paris pour Lyon, et ensuite Lyon pour l'Afrique du Nord. Et on le retrouve à Alger en 1942. Par patriotisme.
Oui, ça, je me suis entretenu de ça avec Philippe Soupeau et aussi Emmanuel Robles, qui l'ont connu justement à Alger. Robles seulement à Alger et Soupeau auparavant à Paris. Bov était anti-nazi, n'est-ce pas ? Bien, et c'était difficile à l'époque de ne pas être anti-nazi. Et lorsqu'on se retrouvait à Alger, bon, eh bien, naturellement, on était imprégné de tout ce qui se passait en métropole, et c'était en somme le grand fantasme, n'est-ce pas ? Il y a comme ça des textes de lui. Oui, je disais donc qu'il y a comme ça des petits textes de lui qui sont parus dans un journal, un quotidien qui s'appelle La Marseillaise d'Alger, et qui sont des textes que j'ai qualifiés d'un peu patriotiques, car il y a une morale dans ce sens-là, à la fin de certains d'eux. Voilà.
On peut d'ailleurs ajouter que ces textes paraissaient sous un pseudonyme, qui est Victor Bâton, et que c'est le nom du narrateur de Mes Amis.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. J'ai découvert ça, j'ai retrouvé des coupures de journaux signées Victor Bâton.
Je ne pouvais plus m'en aller. D'ailleurs, je préfère supporter un ennui que de faire une impolitesse. « Viens boire un verre », me dit-il, en s'arrêtant devant un débit de vin. Je refusais, non pas par politesse, mais parce que je craignais qu'il ne payât pas. On m'avait déjà joué ce tour. Il faut être méfiant, surtout avec des étrangers. Il insista. J'avais un peu d'argent au cas où il se déroberait. J'entrai. Le patron, assis comme un client, regagna rapidement son comptoir. « Bonsoir, messieurs. »« Bonsoir, Jacob. » Le plafond de la salle était bas, comme celui d'un wagon. Sur la caisse, il y avait des billets de réduction pour un cinématographe. Mon compagnon demanda un boc. « Et toi, que prends-tu ?»« Comme vous. » J'aurais préféré demander une liqueur, mais ma timidité imbécile m'en empêcha. Mon voisin avala une gorgée de bière, puis, essuyant sa moustache pleine de mousse, il me questionna. « Comment t'appelles-tu »« Bâton Victor, » répondis-je, comme au régiment. « Bâton ?»« Oui. Quel nom ?» dit-il, en faisant le simulacre de fouetter un cheval. Cette plaisanterie ne m'était pas étrangère. Elle m'étonna de la part d'un homme qui paraissait si réservé. « Et vous ? Comment vous appelez-vous ? » ?»« Henri Billard. » La peur de le vexer ne m'eût pas retenu. J'aurais moi aussi ridiculisé son nom en faisant semblant de jouer au billard. Mon compagnon ouvrit un porte-monnaie et paya. N'ayant pas soif, j'eus de la peine à finir mon boc.
L'épisode algérien est le dernier épisode marquant de la vie de Bov, puisqu'il semble qu'il rentre en France en octobre 1944. Et qu'il meurt à Paris le 13 juillet 45, avenue des Ternes.
Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, il est mort à peu près le même jour, dans l'année du moins, que Calais. Hein, puisque Calais est mort le 14 et lui est mort le 13, il avait un peu d'avance. Donc il y a là quelques correspondances. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il est revenu en France, évidemment, il était très malade. Il était notamment presque toujours fiévreux. Il s'est alité pratiquement et il est mort comme ça. Quoi. Il est mort de... Alors il y a tout... il y a eu toute une légende à ce propos, enfin, est-ce qu'il était tuberculeux, est-ce qu'il était cancéreux, est-ce qu'il était je ne sais quoi. Bon, il s'agit de suites paludéennes, de suites d'accès palustre, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, enfin, ça a quelque chose à voir avec le paludisme, mais enfin, tout ça, manifestement, venait d'assez loin, enfin, des années, comme tu le disais tout à l'heure, de 1935, enfin, et tout ça. Il est mort jeune, à 47 ans, donc, et ses deux frères, par exemple, il a encore ses deux frères, l'un est âgé de 75 ans, et l'autre est âgé de 81 ans.
Être écrivain rend la santé fragile.
Oui, c'est ce que je veux dire. Il y a certainement un rapport. On peut pas l'exclure en tout cas.
On peut effectivement noter que Paul Gadène meurt à 50 ans d'une tuberculose, que Raymond Guérin meurt à 50 ou 51 ans d'une pleurésie purulente, Calais, dont on parlait tout à l'heure, est mort cardiaque, mais après aussi un affaiblissement.
Oui, oui. Puis on peut ajouter que Gide meurt à plus de 80 ans, que Mauriac meurt à 75 ou 80 ans, et quelques autres au même âge, et on peut, à partir de ça, faire un diagramme et évidemment voir la position qu'ils occupent respectivement sur l'échiquier littéraire, si ce n'est politique.
Par Emmanuel Bove, c'est Mes Amis. C'est aussi le premier livre ressuscité de Bove par Flammarion en 1977. C'est un livre assez court, d'une construction un peu particulière. Ça ressemble, si on le regarde trop vite, à un recueil de nouvelles. Et pourtant, c'est beaucoup plus structuré qu'un recueil de nouvelles. C'est un roman.
Oui, non, ben, l'intrigue, si on veut, de Mes Amis, bon, ben, c'est donc Victor Bâton, tu l'as dit tout à l'heure, on pense que vous voyez, tu l'as dit tout à l'heure, donc le personnage principal, c'est Victor Bâton, c'est une sorte de déshérité qui a peut-être fait la guerre, peut-être pas, enfin, qui est pauvre, qui vit dans des garnis, etc., etc., bien. Et puis alors, bon, il se sent assez dépourvu, il se sent dépourvu d'amis, il voudrait avoir des amis. Et alors, dans son obstination à vouloir rencontrer des amis, il s'imagine que les quelques inconnus qu'il rencontre sont des amis. Donc, si tu veux, chaque inconnu rencontré donne lieu à un chapitre. À ce moment-là, c'est chaque fois un ami, et c'est chaque fois une nouvelle. Mais enfin, je pense que c'est tout à fait un roman. Enfin, je veux dire, enfin, peu importe d'ailleurs. C'est pas. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas une intrigue qui courrait du début à la fin avec l'énigme posée dans les deux premières phrases et la solution au point d'orgue. Hein, non, dans ce sens-là, non.
C'est assez curieux pour un premier livre, parce que c'est une structure qui pourrait être taxée de structure un petit peu faible, et pourtant l'atmosphère est tellement lourde, et cette espèce de quête de l'amitié est tellement pressante que le livre est complètement bouleversant.
Dans le cas des deux premiers livres de Bove, bon, c'est personnellement ce que je préfère, que beaucoup de gens préfèrent, enfin il y en a d'autres aussi, mais dans le cas de ces deux livres, l'écriture est particulière, c'est-à-dire que ce sont des phrases courtes et concises, comment dire, ce sont des chaque phrase presque est une sorte de microcosme et se suffit pratiquement à elle-même.
Un après-midi de mars, je me promenais sur les quais, il était 5 heures. Le vent retroussait mon pardessus comme une jupe et m'obligeait de tenir mon chapeau. De temps en temps, les fenêtres vitrées d'un bateau-mouche passaient sur l'eau, plus vite que le courant. Les corps se mouillaient, des arbres luisaient. On voyait, sans bouger la tête, la tour de la gare de Lyon, avec ses horloges déjà éclairées. Quand le vent cessait, l'air sentait le ruisseau à sec. Je m'arrêtais et, m'accoudant sur le parapet, je regardais tristement devant moi. La cheminée des remorqueurs tombaient en arrière avant les ponts. Des câbles tendus reliaient des péniches habitées au milieu. Une longue planche joignait un chaland au sol. L'ouvrier qui s'aventurait dessus rebondissait à chaque pas, comme sur un sommier. Je n'avais pas l'intention de mourir, mais inspirer de la pitié m'a souvent plu. Dès qu'un passant s'approchait, je me cachais la figure dans les mains et reniflais comme quelqu'un qui a pleuré. Les gens, en s'éloignant, se tournaient. La semaine dernière, il s'en était fallu de peu que je ne me fusse jeté à l'eau pour paraître sincère.
Les rencontres des amis ou des supposés amis sont presque toujours des rencontres d'hommes, sauf dans mes amis, au moins une exception notable. Et la femme qui le rencontre, la tenancière de restaurants populaires ou de bistrots, est un personnage qui semble encore plus dur et plus décevant que les autres. Est-ce que c'est une constante chez Bov ?
Oui, d'abord, il faut dire quand même que, bon, dans mes amis, il y a peut-être, je pense, 6 ou 7 portraits. Il y a 2 portraits de femmes dedans. Hein. Il y a Blanche aussi, après. Bon, non, pas particulièrement. Je pense que, puisque ça tourne autour de l'amour avec un grand A, et non plus de l'amitié dans ce cas, bon, eh bien, c'est encore plus crucial. Je pense que, dans ce sens-là, mais enfin, on peut pas dire qu'il y ait, disons, une quelconque... misogynie ou quelque chose, alors que c'est très répandu chez les grands romanciers, n'est-ce pas ? On peut pas dire, alors ça c'est très frappant chez Bov, comment il n'y a pas du tout de différenciation entre les sexes. On pourrait même dire, alors, pour aller plus loin, que ces personnages sont dans ce sens-là, mais dans ce sens-là seulement, asexués, un peu. La chose sexuelle est complètement transposée, c'est complètement, disons, rabattu sur la tendresse, quoi, au fond.
Rabattu sur la tendresse, mais sur l'angoisse aussi.
Ah ben la tendresse et l'angoisse, oui, mais je crois pas que ça soit incompatible. Hein. Je pense qu'on peut articuler ça ensemble très facilement.
Quelquefois, je mange à la soupe populaire du 5e arrondissement. Malheureusement, cela ne me plaît pas, car nous sommes trop nombreux. Il faut venir à l'heure. Par n'importe quel temps, nous faisons la queue, le long d'un mur, sur le trottoir. Les passants nous dévisagent, c'est désagréable. Je préfère le petit débit de vin de la rue de Seine, où l'on me connaît. La patronne s'appelle Lucie Dunois. Son nom, en majuscule d'émail, est cimenté au vitrage de la devanture. Il manque 3 lettres. Lucie a l'embonpoint d'un buveur de bière. Une bague d'aluminium, souvenir de son mari mort au front, orne l'index de sa main gauche. Ses oreilles sont molles, ses souliers n'ont point de talons. À tout moment, elle souffle sur les cheveux échappés de son chignon. Quand elle se baisse, sa jupe se fend au derrière comme un marron. Les pupilles ne sont pas au milieu des yeux, elles sont trop hautes, comme chez les alcooliques. Elle apparut nue. Ses cuisses débordaient au-dessus des jarretières. La colonne vertébrale bosselait la peau, aux reins. Elle était vaccinée sur les bras. Je perdis la tête. Des frissons, semblables à ceux qui secouent les jambes des chevaux, me coururent le long du corps. Le lendemain matin, vers 5 heures, Lucie m'éveilla. Elle était déjà habillée. Je n'osais la regarder car, à l'aube, je ne suis pas beau. « Dépêche-toi, Victor, il faut que je descende. » Quoiqu'à demi endormi, je compris tout de suite qu'elle ne voulait pas me laisser seul dans sa chambre. Elle n'avait pas confiance en moi. Je me vêtis à la hâte et sans me laver, je la suivis dans l'escalier. Elle ferma sa porte à clé. « Va lever le rideau de fer. » Je m'exécutai, puis je m'assis, espérant qu'elle m'offrirait une tasse de café. « Tu peux partir, les clients vont arriver. » Bien qu'elle fût maintenant ma maîtresse, je m'en allais, sans rien demander. Depuis, quand je viens manger, elle me sert comme d'habitude, ni plus ni moins.
«
Yves Martin, Emmanuel Bove et les femmes.
Par exemple, je caressais ses seins qui ne sont pas sensibles, ses hanches, ses épaules moites de crème, évitant le grain de beauté qui lui fait mal. Alors là, on retrouve ce côté très précis et presque scatologique qu'on retrouve par exemple dans les romans de Colette. Mais enfin, la sexualité de Bob est, en tout cas, j'ai relevé dans Armand une phrase qui peut-être l'éclairer. Hein. La pensée de revêtir une robe de Jeanne m'effleura. Elle aimait que je m'habillasse comme elle, que je prisse les manières d'une femme. C'est très, 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 très curieux, puisque... Alors, par exemple, dans Colette, disons, c'est les femmes, tandis que là, on a l'impression c'est l'homme qui... Alors, c'est assez bizarre comme retournement. Est-ce que c'est... Trouver une explication, je ne sais pas, mais enfin, il est un fait que ce genre de réflexion dans un roman qui est de 1927 est quand même, je trouve, assez audacieuse. Hein, ça...
Oui, c'est pour ce genre de réflexion que Raymond Guérin a eu tant d'ennuis quand il a voulu publier L'Apprenti en 1945. Et il y a d'ailleurs dans L'Apprenti de Guérin une scène tout à fait analogue où l'apprenti s'habille ou rêve de s'habiller en femme. Et l'apprenti raconte une histoire qui se passe en 1926 ou 1927. Il y a peut-être aussi là une clé d'époque.
Peut-être une clé d'époque aussi, peut-être justement, je veux citer Colette parce que justement, peut-être c'est une époque où, disons, l'ambiguïté sexuelle a peut-être été très loin, et qu'en fait, peut-être plus loin que... Parce que maintenant, on parle beaucoup de ça, mais est-ce qu'à cette époque-là, qui était une époque, je crois, très libérale, hein, si mes souvenirs sont bons, enfin, c'est intéressant de noter que Bove, malgré son côté, disons, un peu désincarné, va quand même assez loin dans ce genre de réflexion. Alors, ça jette peut-être sur le personnage une petite lueur. Voilà.
Le deuxième livre que tu évoquais tout à l'heure, qui paraît 2 ans après Mes Amis, c'est Armand, qui a été republié pratiquement en même temps que Mes Amis, toujours par Flammarion. Lui est nettement organisé autour d'une relation amicale entre 2 hommes.
Oui, c'est-à-dire c'est une situation triangulaire, en fait. Il y a 2 hommes, il y a encore là un paumé, mais qui a réussi à se caser auprès d'une femme qui n'est pas précisément riche, mais enfin qui est un peu plus, disons, pignon sur rue, n'est-ce pas ? Et il rencontre un de ses anciens condisciples de misère, en somme. Et alors il est plein de condescendance à son égard. Et puis à un moment donné, il commet une erreur en voulant à toute force embrasser la nièce de son ex-ami, en quelque sorte, de ce Lucien, donc qui est son ami. Et alors à partir de ce moment-là, sa situation se dégrade et on comprend que c'est cet ami Lucien qui va prendre la place, n'est-ce pas, auprès de Jeanne, qui est la femme. Alors, c'est une espèce de... En somme, c'est l'esquisse d'un mouvement perpétuel, quoi. La dernière phrase du roman, à cet égard, est complètement... très extraordinaire, je trouve. « Je pris la rue en pente, des enfants y jouaient à la balle, les petits en haut, les grands en bas, pour que leurs chances fussent égales. » Alors ça, tu vois, je trouve ça formidable. J'en ai parlé, j'ai rencontré à Salzbourg l'autre jour Anke, et on est vraiment tombé d'accord sur cette dernière phrase. D'ailleurs, on aime beaucoup les dernières phrases, on a ça en commun, au moins, c'est d'aimer beaucoup, tous les deux, les dernières phrases de Bob. Ça, je trouve que c'est formidable. Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est d'une émotion. Et bien sûr, il faut avoir lu le livre, mais enfin, si on a compris un peu la situation, je pense que ça parle de soi-même.
Tout était fini. Je songeais à lui dire que j'avais les poumons faibles, que je lui avais toujours caché que j'entretenais une pauvre mère sur mon argent de poche, à lui dire n'importe quoi pour la toucher, à le lui dire en pleurant, à lui avouer pêle-mêle les actions les plus grandes et les plus basses, bien que je n'eusse commis aucune d'elles, afin que la stupéfaction ramenât son attention sur une autre face de moi-même. Mais je sentis que cela aussi serait inutile. Je fis un pas, depuis qu'elle s'était levée, c'était la première fois que je lui tournais le dos, aussi simplement qu'après un au revoir quotidien. Mon ombre ne tourna pas avec moi. Je restais seul devant la porte entrouverte de l'antichambre, où pendaient des habits plus hauts que des hommes. Je fis encore un pas, plus court que celui de tout à l'heure, calculé comme avant une marche. Tout ce qui se trouvait devant moi persistait à demeurer triste. Je ne pus continuer. Je me retournai et gagnai le milieu de la pièce, m'arrêtant avant le soleil qui dorait les murs, comme si en un tel moment, je devais refuser sa lumière. Jeanne n'avait pas remué. Elle regardait l'endroit où j'eusse dû me trouver. « Tu me chasses donc, Jeanne ?» Elle posa son regard aux endroits les plus émus de mon visage, sur mes yeux, sur mes narines, sur mes lèvres. « Non, Armand, je te demande de partir. »
Psychologique, c'est un écrivain qui a des fulgurances, c'est-à-dire que c'est également un poète. Et alors ces fulgurances sont d'autant plus extraordinaires qu'elles sont dans un espèce de contexte qui peut paraître relativement plat, mais tout d'un coup il y a une image qui vient comme ça et qui est vraiment intégrée. J'ai relevé quelques phrases dans Armand que je trouve caractéristiques, moi. Enfin, par exemple, il dit « Je me vis une seconde jusqu'aux épaules dans ses prunelles ». Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Par exemple, des détails sur la vie quotidienne. « Il y avait tant de soleil que je ne sus si mon allumette flambait ». Alors, il y a une phrase qui définit bien son œuvre. « Il me semblait que je n'avais plus raison contre les hommes ». Ça, je crois que c'est la phrase clé qui revient vers la fin d'Armand, d'ailleurs, et où Armand ne peut plus lutter. Et, bon, les hommes ont eu raison de lui, quoi. L'enfer, c'est les autres, quoi. Disons, c'est un peu ça. Hein. Mais alors, par exemple, genre de phrase bovienne, nous nous arrêtâmes à côté d'un arbre, plus jeune que les autres, qui, près de nous, eut un peu l'air d'un tiers. Chez lui, un arbre, un café, tout ça, c'est presque des gens. C'est un auteur qui a l'air un peu désincarné. En fait, non, au contraire, tout vit d'une façon. Il y a des comparaisons extraordinaires. Par exemple, à l'horizon, les nuages de la veille se pressaient les uns contre les autres, comme si sous d'autres cieux, d'autres nuages les empêchaient de passer. Alors, il y a un côté là. Alors, c'est autre chose. C'est un univers qui peut être ailleurs. Hein, ou alors, il y a des comparaisons que je trouve. Mes mains étaient grasses de sueur, comme si je venais de caresser un cheval. Ça, c'est vraiment le poète. Hein, il n'y a qu'un poète qui peut trouver ce genre de comparaison. Mais en même temps, il a aussi un côté du gars qui remarque tout. Par exemple, s'il a un frisson, s'il n'est pas bien, s'il a une douleur, il va mourir. Enfin, c'est vraiment la grande trouille avec lui. Hein, c'est vraiment, il a peur de tout. Et alors, tous les frais, il est complètement. Puis alors il note, il a un côté frileux, alors que j'avais des frissons comme après chaque repas. Alors ça, on n'y coupe pas. Il y a un tas de détails comme ça, mais qui finissent par créer une espèce de substance. Alors il y a des détails aussi tout à fait extraordinaires. Il me plaît d'aller chez un ami, de pénétrer l'intimité d'une chambre, de deviner l'usage des objets, les raisons de l'emplacement qu'il s'occupe. Et ça c'est très caractéristique parce que il y a un côté fouineur, il regarde, il rentre, il regarde ce qu'il y a. Puis même lui-même, si les objets sont peut-être pas à leur place, du moins qu'une chaise elle est un peu plus loin que vers la fin du livre, il y a des chaises qui sont, ils ne paraissent plus du tout à la même place. Alors ça se noue, ça va avec le drame du fait qu'il il va se retrouver seul, etc. Par exemple, un détail que je trouvais encore... c'est ridicule de l'avouer, mais j'aime à toucher un plafond. Curieux, ça c'est vraiment... j'aime à toucher un plafond. Ça en dit beaucoup sur... par exemple, il voit des toits, Et alors, il y a beaucoup de détails sur l'enfance. Alors, je pense qu'ils sont vraiment autobiographiques. Je me souviens qu'enfant, j'aurais aimé à me promener sur les toits. Alors, ce gars qui a l'air complètement... dans la vie quotidienne, complètement dans le gris, dans... Puis tout d'un coup, je me souviens qu'enfant, j'aurais aimé me promener sur les toits, comme si, côté... Alors, par exemple, des détails poétiques, chaleur humide comme de l'eau fraîche. Lucien avait croisé les jambes d'une manière qui, pour moi, eût été fatigante. Parce qu'il est toujours en train de regarder l'autre, et les gens, dans les romans de Bob, les gens s'observent continuellement. Et alors, ils s'observent vraiment sur des détails minimes, sur la main, il y a des moments où il décrit la main, où il décrit le visage, mais alors vraiment, avec d'un côté qui peut même l'associer, au niveau des objets, du moins, au nouveau roman, par certains côtés, les gommes d'Alain Robbe-Grillé, que je trouve un livre d'ailleurs très beau, et on retrouve cette espèce de... comme ça aussi. Alors, ce qui prouve que c'est un écrivain, donc on peut dire qu'il est psychologique, c'est-à-dire qu'il est bien quand même ancré de son époque et les écrivains que publiait, disons, Émile Paul. Et en même temps, il y a chez lui autre chose qui fait que maintenant on peut le lire et que, disons, il nous est actuel. Je crois que c'est...
Il n'y a pas que des personnages, il y a des objets. Vous parliez tout à l'heure de l'arbre ou du café. Vous aviez relevé une très très belle formule sur le café.
Oui, oui. À un moment, il dit « susceptibilité d'homme de café ». C'est une phrase que je trouve tout à fait extraordinaire. Il le dit à un moment où un des personnages s'en va et laisse l'autre avec son verre devant, qui n'a pas eu le temps de boire. Et il est vraiment le gars qui reste devant son verre et a cette susceptibilité d'homme de café. Et ça, c'est une chose que tout homme de café... d'une certaine façon, je suis un homme de café, donc c'est tout à fait bien observé. Donc c'est un gars qui observe continuellement. Il est continuellement, pour employer un terme qu'on emploie peut-être un peu à tort à travers maintenant, il voit, il est voyeur, il regarde tout... ne laisse rien passer, voilà, il ne laisse rien passer. Et ça, à force de noter dans son roman, dont l'histoire n'a qu'un intérêt, c'est pas extraordinaire, disons, comme presque même quasiment mince, hein. On aurait pu en faire une nouvelle de 10 pages, hein. À force d'accumuler des choses comme ça, c'est ça qui rend le personnage qui est même à la limite falot, sans intérêt, d'ailleurs on ne sait même pas trop bien ce qu'il fait exactement, s'il est pas plus ou moins d'ailleurs au crochet de son épouse, on ne sait pas trop bien, peu à peu il prend une dimension extraordinaire parce qu'il ramène tout, il est comme un pêcheur, il ramène tout à lui, et c'est ça qui donne le personnage est falot, mais à force de ramener des objets, des notations, finit par prendre une ampleur. C'est vraiment, il mène tout à lui, ce gars-là. Je trouve ça formidable.
Il y a un autre élément qui est assez frappant, c'est que l'atmosphère qui résulte de tout ça est toujours une atmosphère très, très lourde, très sombre. Les gens ne semblent jamais vraiment facilement heureux dans les livres de Bob.
Oui, mais je dirais plutôt que c'est un auteur, plus que, pas vraiment sombre, mais je dirais que c'est un auteur tamisé, moi. Parce que c'est plutôt du gris, c'est plutôt clair-obscur, c'est pas vraiment un auteur noir, hein, c'est pas vraiment quelqu'un de noir. Non, tout est assez gris, mais un gris qui peut être d'ailleurs lumineux, parce que de temps à autre, il se met à décrire tout à fait poétiquement les choses. Il y a un côté peintre aussi chez lui, et moi, le peintre auquel j'ai pensé, ce serait Bonnard. par certains côtés, il y a un côté bonnard chez lui. Il y a un côté, ces choses tout à fait qui ont l'air de rien, ces gens qui sont en pilou, ces gens qui sont tout à fait, qui n'ont rien d'extraordinaire, deviennent remarquables. Mais il sait décrire des choses, hein. Par exemple, au niveau du... Je retrouve une page.
La pluie était si fine qu'il fallait porter son regard loin devant soi pour la distinguer. J'avais appuyé mon front contre un carreau de la fenêtre de notre chambre. Les gouttes qui coulaient sur le verre ne me touchaient pas. Il était midi. Jeanne s'était rendormie. J'essayais de la voir dans la vitre, malgré la transparence du verre. À cause de nos corps, des étoffes déployées, des papiers tentures, il faisait tiède dans l'appartement. J'allumai une cigarette. Au lieu de monter, la fumée, comme une buée, roula jusqu'au lit, s'étala contre les glaces en même temps que son image. Elle était grise. Le ciel était gris. Ce que je touchais, surtout le fer, la porcelaine, le marbre, était humide. Des femmes traversaient la cour. Le pain qu'elles portaient était enveloppé, malgré la pluie, dans du papier de soie. Je quittai la fenêtre. Je me regardais dans la glace de la coiffeuse, parce qu'elle est biseautée. Je n'avais pas fait ma toilette. Mon visage, mes mains, avaient encore la même température que mon corps. Je pensais à Marguerite, seule dans sa chambre d'hôtel. Les horloges de la ville sonnaient. Je m'amusais à compter les coups, espérant chaque fois, je ne savais pourquoi, qu'un sonneur se tromperait, que 11 ou 13 coups retentiraient. Mais aucun sonneur ne se trompa. Tout suivait son cours normal.
Naturellement, c'est pas un bon vivant, hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui va, il va vous décrira jamais la mousse d'un demi, le visage d'une midinette, même les bistrots, on a l'impression qu'il y a personne, que les personnages qui viennent comme sur un décor de théâtre, jouer leur pièce et puis qui s'en vont et s'enfuient, ne soit dans la nuit, dans l'après-midi, etc. Le café, c'est une sorte de décor où les gens se retrouvent, et un peu comme dans une pièce, je ne sais pas, de Ionesco, de Beckett, où ils débitent leur drame, et puis ils s'en vont, et puis voilà.
Un autre élément qui est souvent lié au café, parce qu'en rentrant ou en sortant du café, les personnages le subissent souvent, on a l'impression qu'il pleut très souvent dans les livres de Bove.
Ah oui, ça, il pleut continuellement. Et alors là, il décrit continuellement la pluie. À un moment, il compare la pluie à des balles de fusil la pluie est continuellement présente. Et il est vrai qu'à Paris, bien dire que c'est quand même un auteur parisien, donc il pleut énormément. Mais pour lui, à la pluie, ça accompagne continuellement ses problèmes, je veux dire. C'est le gris, c'est le gris-noir, c'est le sorte de monde tamisé, comme ça, où il pleut tout le temps, c'est Paris, hein, je veux dire, on ne peut pas imaginer un roman parisien sans qu'il pleuve beaucoup.
Il y a pourtant dans cette pluie grise quelquefois des éclairs superbes. Vous parliez tout à l'heure des phrases de poète de Bove et vous aviez relevé une très très belle formule qui était à la fois liée à son enfance et à un éclairage poétique étonnant. Je parlais des jouets mécaniques et des automobiles.
Ah oui, c'est ça, j'avais vu ça. C'est dans Armand, il pleuvait toujours, les chapeaux des passants, bien qu'ils fussent de feutre ruisselé, là, ça reste relativement dans le genre de comparaison. Où ça devient beaucoup plus étonnant, c'est à cause du souvenir de mes jouets mécaniques que l'eau abîmait, je m'étonnais une seconde que la pluie ne fit aucun mal aux automobiles. Ça, c'est même un détail, je sais pas, qu'on pourrait trouver aussi bien dans un roman de, je sais pas moi, de Soupeau ou de Ribemont-Dessaigne, hein. Donc je veux dire, d'ailleurs à l'occasion, je rappellerai que Ribemont-Dessaigne mériterait quand même un meilleur sort, ce que l'on y fait, que l'on est encore un des grands méconnus et Bon, on suppose la priorité, mais enfin, je veux dire, Raymond Dessaigne, c'est vraiment aussi un cas à revoir. Hein. Mais alors, plus loin, il dit « Je m'aperçus que j'avais emporté deux mouchoirs, je faillis jeter l'un d'eux, tant quelque chose d'inutile sur moi, mais désagréable. » Alors, c'est le côté maniaque du personnage. Il est toujours en lutte avec les objets, il y a que les objets sont pas vraiment à leur place. À un moment, il dit « Bon, je... » Bon, bah, il ne pouvait pas dormir parce que si ses pieds dépassaient, par exemple, du lit. Enfin, il y a tout un côté ménager et qui est vrai, parce que dans la vie, c'est vrai, on est toujours agressé par un tas de détails. Et je crois que c'est formidable qu'il n'ait pas hésité à le mettre, alors qu'il y a beaucoup de romanciers. Ils disent, bon, bah, ça, ce n'est pas nécessaire. Et c'est surtout que ce n'est pas des détails. C'est des détails qui toujours servent le personnage, je veux dire, et servent à l'épaissir. Hein. C'est pas uniquement pour mettre une description sur une description, mais ça s'augmente, ça fait que c'est une espèce de... ça lui donne une épaisseur qu'il n'aurait pas sans ça. C'est jamais gratuit, voilà. C'est jamais gratuit. C'est pas la description pour la description. Hein.
Ma carcasse éclatée, le vétérinaire apposera son sceau, preuve que je ne suis pas arrivé là par hasard. Puis je serai diligenté vers l'atelier de menu découpe. Les 12 000 charcutiers purs, auxquels s'ajoutent 5 000 charcutiers bouchers et 20 000 bouchers charcutiers, tant de gros que de détails, se bousculent déjà au guichet, dans l'espoir de s'arracher les meilleurs morceaux. Il est désormais exclu que je n'atteigne pas la postérité. Au pire, les porchers revanchards ne parviendront à écharper que quelques bas morceaux. Ça ne m'empêchera pas, pour l'essentiel, d'aller au peuple. Naguère encore, la tuerie particulière aurait contraint ma marchandise à végéter dans le cercle étouffant du porcher et de sa famille. Le développement des accords internationaux ouvre maintenant la voie à la libre circulation des carcasses. Me voici au seuil d'une prodigieuse aventure. À pied, à cheval, à l'intérieur des camions frigorifiques ou dans les boîtes de conserve, mon avenir est assuré. J'irai sous peu porter la bonne parole sur toute la planète. À croire que mes rôtis et côtelettes sentent déjà l'appel du grand large. Si je ne les retenais fermement, je crois qu'il me fausserait compagnie avant l'abattage. Mais je suis un cochon légaliste. Aussi longtemps que j'aurai la charge de ma marchandise, pas un atome ne sera distrait du cours officiel. Ce n'est qu'après avoir participé à l'élaboration des rillettes et du pâté commun que je pourrais m'estimer paré. Ensuite, bien sûr, c'est une autre histoire. Mais qu'importe alors, j'aurai vécu. Stratégie pour deux jambons, Raymond Cousse.
Lorsqu'on est écrivain et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, c'est le cas de Calais, de Bov, de Hanke, de moi un petit peu, j'espère, et de beaucoup d'autres, il n'y a pas aucune raison d'être réjoui. Enfin, c'est-à-dire que la plupart des auteurs, ce qu'on appelle la grande littérature, c'est une littérature de surcompensation. C'est une littérature qui ne dévoile pas, finalement. C'est une littérature qui camoufle, qui cache et qui sécurise à bon compte. Mais alors, évidemment, les problèmes restent au fond et éventuellement explosent sous les formes les plus irrationnelles. On peut expliquer tous les carnages, tous les génocides possibles. Je pense de cette façon-là. Je n'irai pas, je me garderai bien de les expliquer rationnellement, car ça serait ajouter un peu au carnage. Mais enfin, je pense qu'il y a un rapport très grand à ce niveau.
La deuxième vague, pour garder le vocabulaire du carnage, la deuxième vague de réédition d'Emmanuel Bov, c'est tout récemment, toujours chez Flammarion, Henri Duchemin et ses ombres, et Journal écrit en hiver. Henri Duchemin et ses ombres, c'est, là encore, en apparence, encore un recueil de nouvelles, cette histoire. C'est un petit peu la structure de Mes Amis.
Oui, non, c'est-à-dire que dans le cas d'Henri Duchemin, là, c'est plus du tout les apparences, quoi, car tu vois, ce sont des, tu le sais très bien d'ailleurs, sont des nouvelles tout à fait hétérogènes, les unes aux autres. Bien sûr, on retrouve le même climat. C'est-à-dire, le narrateur a ceci en commun dans chacune des nouvelles, de rester au seuil, si on peut dire, de rester au seuil d'une vie, au seuil de la vie. À aucun moment, on pourra dire qu'il vit pleinement, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est une constante de toute l'œuvre de Bov. Hein ? C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est une écriture à minima. Bon. Et toute toute l'innovation des écritures du XXe siècle, je pense, et peut-être qui resteront, ce sont des écritures à minima. Les grandes écritures, toutes ces du 18e, du 19e, tout ça, bon, toutes ces surcompensations, etc. Bon, tout ça n'est pas du 20e siècle. Ce qui restera, peut-être, car on ne sait pas, mais enfin, c'est la probabilité, enfin, telle que personnellement je le sens, c'est précisément ces écritures à minima, c'est-à-dire des choses comme Beckett, des choses comme Kafka, des choses comme Bov. Je pense que Bov restera, au moins par quelques-uns de ses livres, absolument, Calais, par exemple, et encore quelques autres.
Calais disait quelque part, il faut écrire maigre.
Oui, mais ceci dit, c'est une question de tempérament aussi. La notion de minima n'implique pas de faire nécessairement des phrases courtes. Enfin, je crois. Hein, je veux dire que ce qui est intéressant chez Calais et chez Bov, c'est justement ces phrases courtes en réaction à autre chose. Bien, mais évidemment, ça deviendrait aussi une sclérose si on restait pour toujours sur les phrases courtes. Je dis ça étant moi-même un adepte des phrases courtes, encore que je ne puisse pas faire autrement, donc je ne suis pas tellement adepte.
Journal écrit en hiver, dans le quatrième des livres de Bov qui sont maintenant, grâce à toi, disponibles, est un petit peu différent. Le milieu dans lequel se passe le livre n'est pas tout à fait le même, le style n'est pas le même. Comment est-ce que ça peut s'expliquer ? Bov avait envie de se renouveler, il avait des qualités de caméléon dans son écriture ?
Je veux dire, grâce à moi, tu vois, c'est quelque chose que je reprends pas. Bon, évidemment, j'ai un certain rôle dans cette réédition. Je pense que de toute façon, que ce soit moi qui l'ai fait ou quelqu'un d'autre, bon, Bov serait ressorti parce que son écriture et ses livres sont tout à fait évidents. Donc, bon, j'ai fait ça, je suis curieux, je fais pour des raisons qui sont des raisons de différents ordres, mais notamment pour des raisons morales, etc. Bien, ça c'est un point. Alors, pour la question du journal écrit en hiver, c'est certainement le livre le plus, disons, proustien, si on peut dire, de Bov. Enfin, c'est un peu pointilliste. C'est un roman qui se présente sous forme de journal intime. Un homme est jaloux de sa femme et la femme le quitte à la fin du roman. Bon, voilà pour la chose extérieure. Le style est un peu différent. Bon, alors là, il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui aiment plus, etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Puisque c'est moi qui ai donc un peu décidé de ce qu'on éditerait, j'ai pensé qu'il fallait prendre pour ces deux livres deux extrêmes. N'est-ce pas ? Deux facettes nettement différentes. Et je pense que l'année prochaine, nous ferons à peu près la même chose. Il y a plusieurs facettes chez Bov.
Comment s'est produite cette rencontre entre Bov et toi ?
Bah, ça, c'est tout à fait curieux parce que mon roman Stratégie pour deux jambons, c'est mon premier roman, a été publié en 1978 chez Flammarion. Et alors, il fallait que je regarde la mise en page, n'est-ce pas, le nombre de lignes, le nombre de signes, etc. Bon. Et alors, j'ai pris un livre au hasard et je suis tombé sur Mes amis de Bov. Voilà. Alors, j'ai continué la lecture. Voilà, ça, c'est une anecdote.
Les rééditions, on en a toujours fait probablement dans le monde de l'édition, mais il se trouve qu'en ce moment, on en parle plus que d'habitude. Et certains critiques commencent à en prendre un peu ombrage et se mettent à parler de coups, d'opérations commerciales, en disant on nous a déjà fait le coup Gaden, le coup Guérin, maintenant le coup Bov, ça commence à bien faire. Qu'est-ce que ça veut dire le coup Bov ? C'est combien d'exemplaires ? C'est quoi exactement ?
Bon, premièrement, dans mon cas personnel, je n'ai aucun intérêt financier dans cette affaire. Donc le gain personnel, il est très mince et j'encourage les critiques à ressortir eux-mêmes les auteurs oubliés auxquels ils croient. Hein, quitte à ce que ces auteurs d'ailleurs soient contestés, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a là un acte de justice. Les livres dont on parle dans leur époque ont toujours affaire, et singulièrement en France, avec le pouvoir et notamment le pouvoir politique. Voilà. Les grands auteurs, c'est en gros les maîtres à penser. Bon, moi je pense que la littérature c'est pas ça. Je pense que la littérature, c'est d'abord l'écriture, une écriture. Bon, je trouve ça tout à fait chez Bove. Qu'il y ait la même chose chez Calais, ça sans aucun doute. Bien. Bon, quant au, disons, au coût d'édition, il ne faut quand même pas exagérer avec ça. Je pense que, dans le meilleur des cas, les deux livres de Bove récemment sortis, bon, seront vendus à 8000 exemplaires. Par exemple, la merde de Solers qui s'appelle Femme est vendue, je crois, peut-être à 50 000 exemplaires, sans parler de ce qui est pire encore, si possible. N'est-ce pas? Alors donc, il faut pas exagérer avec ça. Il y a un phénomène de mode à ce propos. Bien, je veux bien, moi pour moi, je m'occupe de Bove depuis 5 ans. Dans 5 ans, je m'occuperai encore de Bove si je suis là et si j'en ai la possibilité et les moyens, de Bove ou de tout autre auteur. Je pense que, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte moral, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis toujours à la recherche de gens qui sont complètement méconnus et qui ont leur place dans la littérature, dans l'histoire de la littérature. Et donc, je trouve ça parfaitement banal. Ça me coûte, bien sûr, beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi, n'est-ce pas? Sans d'ailleurs en gagner pour autant. Mais je pense que c'est une chose nécessaire. Je crois tout de même à l'écriture, tant bien que mal, je crois à l'écriture, à l'art, à la littérature. C'est tout ce qui change un petit peu de ce qui fait que tout ne soit pas absolument désespéré. Dans la mesure où un auteur est un artiste authentique, alors je pense qu'il faut faire le nécessaire quand c'est dans les possibilités pour qu'on le lise. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a dit par exemple, oui, mais alors un critique, c'est Rinaldi, a dit oui, mais alors on sort Gaden, alors au printemps, en même temps que Bove, ça sort au printemps aussi, le printemps est propice, etc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin, je veux dire. Ça veut rien dire, moi ça fait 5 ans, très bien, Gaden sort en même temps, très bien, bon, et c'est tout, voilà, il ne faut pas chercher des choses. Alors, la mode, elle est là, justement. Hein, les gens reçoivent les livres sur le bureau, ils s'imaginent que c'est programmé avant, je ne sais pas, il n'y a rien. Il y a simplement, dans mon cas, vis-à-vis de Bove, Bove me semble indiscutable comme écrivain, et il est méconnu. Donc, par conséquent, j'essaie de faire un petit peu ce que je peux.
C'est assez amusant de voir tout d'un coup la tête de Bove, alors que moi je ne l'avais jamais vu. C'est un écrivain que j'ai acheté sans savoir comment il était. Donc quand je vois maintenant, je passe devant pratiquement tous les libraires, puisqu'il y a une grosse promotion, c'est pour moi extraordinaire. J'avoue, surtout que c'est pour moi un écrivain, comme beaucoup d'écrivains comme ça oubliés, sans visage, je veux dire, que ses livres. N'importe comment, je crois qu'il avait eu toujours un petit public. Du moment que vous avez 10, 20 lecteurs, ça fonctionne comme ça, puis c'est tout. Je crois que c'est ça la vraie littérature. La vraie littérature, c'est pas s'en tenir toujours à ce que dit l'université, etc.
Seul, non. Il arrive. Les vendredis soirs, je disparais sous une épaisse capote, vrombie dans la boue. Comme des métayers, les garçons tranchent. Les mêmes, toujours. Mais je ne suis pas physionomiste. Je vois les visages à travers des flammes, sauf qui peut. Une Tuborg, île, merveilleux tabou de mousse. Je rêve de bretzel comme de minces morceaux de la robe de la mariée sur une aube sévère. Le voici. Il ne change pas, bien que la coupe rose ne crible pas encore. Les mots se troublent comme un joueur d'habitude habile laisse tomber soudain une carte. L'adversaire profite de l'incident pour s'enfuir. J'ai honte. Comment se fait-il que je ne puisse être au moins correct? Mes cancers successifs m'ont transformé en pilleur d'épave. Assez. L'ossuaire est complet. Le patron, le fils du patron, etc. Les dactylos ne franchiront jamais les cercles de feu, la tête la première. Il faut partir. Appartement fève. C'est bougrement bien d'être le roi tous les soirs. Quant à ma silhouette, elle se dirige une nouvelle fois vers un film. Je frissonne, sans doute à cause du corps réfléchi, troublant, de Miu Miu. Plan admirable. Deux pointes de sein décident. Yves Martin.
Je peux me sentir que proche de Bove. Le fait qu'il n'y a pas d'issue, ben ça, c'est également ma philosophie personnelle. Je veux dire, il n'y a aucune issue. On est là, bon, on disparaît, bon, ça se referme. C'est comme un nuage qui passe, un autre nuage. D'ailleurs, il y a l'image du nuage On est passé, c'est fini, c'est terminé, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a rien. Pour moi, Bov, c'est même pas un auteur désespéré. Disons, c'était quelqu'un de lucide, c'est tout.
Magnétique, Daniel Bizien, Annie Mancio, Thierry Cazade, Yves Lehors, François Bréhigné, Claude Royer-Journoux, Guy Ponsard. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 mai 1983.